France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Élise Christophe à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
La mode, je dirais que ça sert avant tout à s'identifier. C'est le premier message, c'est la première information qu'on envoie sur soi au reste du monde. À quoi sert la mode ? Il faut définir la mode comme étant comment est-ce qu'on donne une valeur à la fonctionnalité du vêtement ? Comment est-ce qu'on définit le fait qu'on fasse un choix dans les différents vêtements qu'on va porter, assembler et qui vont donc créer une silhouette, ce qu'on appelle notre style ? Et dans ce sens-là, le mode sert à nous définir et en effet, c'est la première information qu'on envoie au reste du monde, quoi. Je sais, en tout cas pour ma part, quand je m'habille tous les matins, je m'habille en écoutant mon énergie, si ça fait sens, comment je me sens et justement comment j'ai envie d'apparaître aux yeux du monde, quoi. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un reflet, en effet, de l'intérieur, quoi, de comment on se ressent.
C'était le designer Elliot Cox. La mode, ça sert avant tout à s'identifier. La philosophie va nous aider à comprendre la mode. Emmanuel Ecoccia, vous allez nous dire pourquoi la mode est pour vous, je vous cite, une philosophie à l'état pur, pratique et universelle. Vous publiez un livre chez Flammarion intitulé « La vie des formes, philosophie du réenchantement ». C'est un livre à quatre mains, coécrit avec le styliste Alessandro Michele, qui a été le directeur de la création de Gucci, puis de la maison Valentino. Hubert Barrère, vous êtes quant à vous créateur de mode, corsetier et brodeur, directeur artistique de la prestigieuse maison de broderie Le Sage. Emmanuel Ecoccia, la mode peut et doit être conçue comme une forme de philosophie ?
Absolument, et peut-être la philosophie la plus radicale et la plus pratique. Moi, je pense qu'il faudrait commencer à reconnaître que la mode n'est pas juste la forme contemporaine qu'on donne à l'histoire du costume. C'est ce qui est arrivé à l'art une fois que, au début du XXe siècle, les avant-gardes artistiques ont annoncé la volonté de fondre art et vie. Mmh. Et si on a ce programme, en effet, dans la tête, il y a un objet qui devient votre allié privilégié, qui est le vêtement. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'habille tous les jours et pendant toute la journée. Donc, indifféremment de votre âge, de votre genre, de votre opinion politique, de votre colocation géographique, en fait, ben, vous allez vous habiller. Et du coup, le vêtement est devenu une espèce de cheval de Troie qui a permis à l'art de rentrer dans la vie de tous et de toutes. Et surtout, par rapport aux autres œuvres artistiques, les vêtements ne présupposent pas un rapport de pure contemplation. On est face à un tableau 30 secondes, 40 secondes, on est face à un film 2 heures, pas plus. Alors que la mode nous invite à rentrer dans l'œuvre d'art. Au fond, c'est comme si on prenait un tableau de Picasso et on y vivait dedans, en fait.
Mais associer mode et philo, ça a quelque chose, je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui sont en train de nous écouter et qui se disent ça, ça a un côté inattendu, peut-être même exagéré aux yeux de certains.
Ça a un côté inattendu juste parce que les statuts de la mode, malheureusement, dans le monde intellectuel, est encore victime dans une série innombrable de préjugés insupportables et intenables, en fait. Mais personne se tonnerait de faire une philosophie de la peinture, de la sculpture, et je vois pas pourquoi on devrait s'étonner pour un livre qui parle de mode. De fait, lorsque le livre est sorti en Italie, j'ai reçu pendant un mois des insultes sur sur ma...
C'est pas vrai.
Mailbox personnelle en disant que je m'étais vendu, que j'avais perdu mon âme, etc.
Vous aviez vendu votre âme au diable.
Voilà. Mais en fait, c'est impressionnant de voir à quel point la mode suscite des réactions extrêmement violentes, surtout à cause aussi du manque d'enseignement et du manque de culture. En fait, la mode, c'est la seule discipline artistique qui n'est pas vraiment, dans l'histoire, n'est pas vraiment enseignée. Par exemple, à l'université, dans les universités de sciences humaines et sociales, il faut aller dans des écoles spéciales pour l'apprendre. Donc, il faudrait intervenir aussi à ce niveau-là, je pense.
Hubert Barrère, dans la mode, il y a une recherche de vérité. La mode est aussi un langage. Il y a de la poésie, il y a du doute, il y a tout ça dans la mode.
Quand on la crée, en tous les cas, oui. Après, je ne sais pas, lorsqu'on la porte, est-ce qu'il y a tous ces doutes-là ? Mais je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que bien souvent, et je le déplore, dans l'histoire contemporaine, on considère la mode comme une histoire de femme de fanfreluche, avec beaucoup de préjugés, et vraiment, ça n'est pas ça.
Et quelque chose de superficiel, quoi.
D'une superficialité. Voilà. En réalité, économiquement, c'est un des secteurs les plus prospères pour la France avec l'aéronautique, il me semble bien. Donc les politiques commencent à s'en intéresser, parce que, évidemment, c'est source non seulement de profit, mais de travail, donc pour tout à chacun. D'autre part, la mode n'est pas une superficialité quand on va très très loin, c'est-à-dire la préhistoire. Pourquoi les hommes ont commencé à s'habiller ? Vous allez me dire, ils se sont mis des peaux de bête parce qu'ils avaient froid. Oui, ça c'est vrai. Mais le chef, le leader du groupe, a commencé à mettre quelque chose de différent des autres pour se différencier. Donc c'est un statut. Celui qui communique avec les esprits, c'est-à-dire l'au-delà, le chaman, ce que vous voulez, une sorte de religion de l'époque, mettait quelque chose d'autre aussi pour se distinguer. Donc la mode, c'est une signification de soi, en fin de compte. C'est une affirmation de soi. Alors, il y a des gens qui n'ont absolument aucun goût, mais le goût ne rentre pas dans cette histoire. C'est comment vous vous considérez. Comment vous voulez être perçu si d'aventure vous avez cette perception de votre propre physique vis-à-vis des autres ? C'est beaucoup plus profond que les histoires de fanfreluches, voilà.
C'est-à-dire qu'à vous voir, à voir quelqu'un habillé, en fait, on peut deviner des choses de la personne. En tout cas, avec vos yeux à vous, à tous les deux.
Oui, mais oui. Je pense que la question n'est pas juste dans la façon dont les autres nous regardent. En fait, la magie de la mode est aussi dans la découverte quotidienne de ce qu'on est et qu'on croyait pas pouvoir être, en fait. Au fond, on a deux expériences très, très simples de ce type-là. Tout d'abord, on rentre dans un magasin pour acheter, on voit un vêtement, on se dit, ah, c'est parfait, etc. Et après, on l'essaye dans la cabine d'essayage et ça marche pas. Donc, on voit très bien qu'il y a un rapport personnel qui peut être juste deviné. Comment dire, il faut une recherche de soi à l'intérieur du vêtement.
Une seconde peau ?
Voilà, une seconde peau. Et aussi, en fait, et je pense que là, c'est les grands travaux de grands créateurs contemporains, notamment Alessandro, je pense que la mode, les vêtements ne nous servent pas juste à... C'est pas une carte d'identité, c'est pas juste quelque chose qui nous permet de déclarer ce qu'on sait déjà être, c'est quelque chose qui nous permet d'être... une identité pas encore explorée. C'est une extension du moi, une invention d'un moi qu'on croyait pas pouvoir posséder, en fait. Et alors, c'est pour ça que c'est très important, parce que ça permet d'étendre notre personnalité, de la pousser là où notre corps physique n'arrive pas, au fond.
Vous êtes d'accord, Hubert Barrère ?
Ah ben totalement. Et je dirais même plus que le vêtement influe sur votre attitude. Vous êtes en t-shirt et en short, excusez-moi, c'est hyper cool. Vous avez un vêtement qui vous étrangle ou un costume de cérémonie, vous ne pouvez pas avoir la même attitude. Vous n'êtes pas, j'allais vous dire, négligé. Ce n'est pas la même chose. Peut-être même que ça influe sur votre façon de parler. Il y a beaucoup d'interférences qu'on ignore sur le vêtement.
Peut-être même sur votre humeur, quelquefois. Un vêtement peut mettre de bonne ou de
couleur,
mauvaise humeur.
La couleur, les choses comme ça, effectivement. Mais bien sûr.
Alors, on va écouter précisément Alessandro, comme vous l'appelez, vous, Emanuele Coche, qui est en fait Alessandro Michele. Je rappelle qu'il est italien, mais que là, il s'exprime en anglais.
I'm very casual, because I really didn't think about it. I mean, it seems to be strange for me, but, I mean, the only thing that I thought that it was a nice idea to wear, because I just bought this t-shirt yesterday. It's a vintage t-shirt that is a merch from the concert in Wembley in the 1992 Freddie Mercury, I think, memory, memorial. I mean, it's a merch, but make me think about my teenager time, and it's like a little relic from the past, and a pair of vintage pants, Valentino shoes, flat shoes, and two necklaces from the 18th century cameo necklace.
Alors, il raconte qu'il porte donc un t-shirt casual à l'effigie de Freddie Mercury, que ça lui rappelle son adolescence, je résume, hein, des chaussures plates, confortables et aussi des colliers. Comment s'est passée la rencontre entre vous deux, entre Alessandro Michele et vous, Emanuele Coccia?
On a été présenté par son partenaire, Giovanni Attili, qui est un professeur d'architecture à Rome. On a commencé à parler, c'était pendant le Covid, on a commencé à parler tout d'abord par Zoom, et c'était immédiatement une espèce de...
d'alchimie.
Attraction magnétique de deux côtés. Donc on est arrivé assez naturellement et assez vite à l'idée de créer un livre. Et du coup, on a commencé à parler, à enregistrer nos dialogues, et à nous voir aussi en Italie. Et au final, on avait accumulé énormément de pages de dialogues à partir desquelles on a composé
entre
les livres.
Le philosophe et le créateur.
Ouais.
Alors, tout à l'heure, je vous demandais si c'était pas exagéré précisément de rapprocher autant la philosophie et la mode, mais quand lui est devenu directeur artistique chez Gucci, et là, je prie d'ailleurs les auditeurs de nous autoriser à citer quelques marques aujourd'hui, c'est de façon tout à fait exceptionnelle, mais c'est pour mieux situer et comprendre vos propos. Il a fait à ce moment-là, Alessandro Michele, une déclaration qu'il a commencé avec un philosophe italien, Giorgio Agamben, et il a fini avec Roland Barthes.
Tout à fait. C'était le communiqué de presse qu'il a distribué en février 2015 pour son premier défilé en tant que directeur artistique de la maison. Et c'était un micro-traité de philosophie dans lequel il déclarait une chose très belle et qui définissait un peu son style, sa position poétique, qui était que pour avoir un rapport, comment dire, être contemporain ne signifie pas se défaire du passé, effacer tout ce qui est là, mais avoir un rapport libre avec son propre passé. Donc il citait George Agamben, qui entre autres était aussi l'un de mes maîtres, en fait.
Et qui est un philosophe italien, qui est spécialisé dans, c'est plutôt la philosophie médiévale, mais enfin il n'y a pas que ça.
Oui. Esthétique aussi, ouais. et Roland Barthes. Il exprimait avec cette communiqué de presse les rapports au temps qu'il a appris en habitant à Rome. Au fond, il répète souvent que Rome nous apprend qu'être contemporain signifie non pas détruire les colisées, mais trouver un espace qui permet un espace de simultanéité entre les colisées et un McDonald's, en fait. C'est ça, être contemporain. Donc, il a toujours revendiqué, au fond, que c'est la philosophie qui arrive à exprimer de manière plus précise ce que la mode fait. Et ces gestes qui n'avaient pas été salués de manière très, très, comment dire, très critiqués par les journalistes de l'époque. Et je me rappelle aussi que, par exemple, j'ai fait un cours sur Alessandro à Harvard, en fait, il y a quelques ans, lorsque je préparais les livres. Et je me rappelle, donc, on a lu ensemble tous les communiqués de presse, qui sont vraiment de micro-traités à chaque fois. Et les étudiants m'ont dit une fois, mais on savait pas que pour comprendre la mode, il fallait un PhD en philosophie, en fait. Et je trouve que c'est un geste à la fois radical, mais très juste. Pourquoi? Parce que, au fond, la mode, comme Hubert nous a dit, c'est un travail quotidien sur soi. Et c'est un travail moral, c'est pas juste un travail, comment dire, esthétique, d'apparence, c'est ciseler sa propre identité, ciseler son propre être au monde. Et en effet, si on doit traduire à un mot ce travail, c'est la philosophie morale qui nous aide le plus.
La mode est un langage, la mode est une pensée, Hubert Parer.
La mode est une pensée, la mode même est politique pour moi. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup d'interactions entre la France et d'autres pays. Au XVIIIe siècle, par exemple, il se trouve que Catherine de Russie adorait la mode française et on parlait en français à la cour de Russie. Et il y a eu des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Elle a interdit la mode française et particulièrement les robes de Rose Bertin, qui était la modiste de Marie-Antoinette. Ça a été une hécatombe pour la mode française et particulièrement Madame Rose Bertin, qui avait une ardoise colossale. Et Catherine de Russie adorait porter encore ses robes à la française chez elle en particulier. Elle imposait à ses dames de cour de ne porter que des robes russes, qui étaient vilaines, paraît-il. En tout cas, tout ça pour dire que Louis XVI, de sa cassette personnelle, a payé Madame Bertin pour éviter un incident diplomatique colossal, parce que la puissance de l'esthétique française était telle que ça irritait d'autres pays. Donc la mode aujourd'hui est toujours dans cet esprit de politique, je trouve, en tous les cas.
Hubert Barrère et Manuel Ekotcha, vous êtes donc les invités de leur philo. On va se faire un petit plaisir parce que c'est une chanson qu'on adore, Nancy Sinatra. These boots are made for walking.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Hubert Barrère nous disait tout à l'heure que la mode, c'est politique. Qu'en pensez-vous, Emmanuel Ekotcha?
Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, on peut citer un autre épisode, anecdote de cette valeur politique de la mode, qui est les mouvements punk. C'était, au fond, un moment décisif, parce que c'était la première fois qu'un mouvement culturel, au lieu d'écrire de tracts, de manifestes, de produire des artefacts quelconques, il a investi les vêtements de la nécessité, de la capacité de porter un message politique et de devenir un couloir de transformation et de libération universelle. En fait, c'est pour ça que la mode, le punk a joué un rôle si important et au fond, il a changé non seulement les langages de la mode, mais le rôle que la mode joue dans les sociétés contemporaines. Au fond, c'était la première fois qu'on prenait à la lettre l'adage que c'est l'habit qui fait les moines, en fait.
Alors, nous allons entrer de plein pied dans la philosophie grâce à Platon, parce qu'il parle de la mode dans la République. Platon commenté par la philosophe Mosna Savoie.
Platon, 4 siècles avant Jésus-Christ, avait déjà tout perçu des problématiques de la mode, celle qu'on connaît aujourd'hui. Dans son grand livre La République, il soutient que la mode n'a aucun bienfait, qu'elle est même condamnable parce qu'en fait, elle épuise les ressources. C'est ce qu'on retrouve comme critique sur le côté polluant de la mode.
Aujourd'hui, ouais.
Parce qu'elle procède aussi par accumulation, parce qu'elle est en fait, autrement dit, dans une logique de l'excès. Le vêtement est peut-être bon en lui-même pour protéger l'individu du froid, du regard des autres, c'est sa pudeur qui est protégée, mais la mode, elle, le système de la mode, est immoral parce qu'elle dérègle le fonctionnement juste et équilibré d'une cité.
La mode, un système immoral, c'est fou quand même que déjà Platon s'y soit intéressé. Hubert Barrère, c'est immoral. Est-ce qu'il y a une mode vertueuse ?
Alors, il y a des modes vertueuses et surtout, il y a des modes qui ne le sont surtout pas. Et, est-ce que je peux aborder un sujet polémique ?
Mais bien sûr.
Actuellement, on parle beaucoup de Shein, Shine, ce que vous voulez. Voilà une mode qui n'est absolument pas vertueuse. D'abord, elle enfreint toutes les règles de commerce international, éthique et tout ce que vous voulez. On fait croire aux gens qui ont peu d'argent qu'ils peuvent s'habiller bien avec ça, c'est de la qualité immonde et qui est tout de suite à la poubelle en plus. Donc il vaut mieux acheter quelque chose d'un tout petit peu plus cher, made in France ou éthique en tous les cas, et de ne pas avoir à jeter tout ça. Et d'autre part, ça enlève beaucoup de travail en France. Ça, il ne faut pas l'oublier. La France a aussi beaucoup d'artisanat et de petites entreprises qui font des vêtements qui ne sont pas à des prix de haute couture ou de grand luxe. Donc, oui, il y a la mode éthique et la mode qui ne l'est pas. La preuve en est.
Mais l'éthique, c'est de la philosophie, hein ?
Oui, mais moi je dirais qu'il faut vraiment ne pas confondre l'attitude morale de celui ou celle qui produit la mode avec la moralité ou l'immoralité de la mode. C'est comme si on commençait à accuser l'architecture d'être les commencements de tous les mondes de la société, parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui sont malhonnêtes en fait. On n'arrive vraiment jamais à faire un discours un peu plus sophistiqué autour de la mode, parce qu'on la prend comme bouc émissaire de tous les maux de nos sociétés. Je pense encore une fois que c'est lié à l'absence des connaissances. C'est comme si, au fond, on tolère dans notre société. Hubert disait, au fond, c'est un champ, c'est un domaine qui produit énormément de richesses et qui a une valeur politique énorme. Mais c'est comme si, dans nos sociétés, on tolérait que personne sait qui est Picasso ou qui est Jeanne Nouvelle. Et c'est la même chose pour la mode. On tolère cette ignorance, on tolère une reconnaissance d'état du fait que c'est un art qui doit être connu par tous et toutes. Et ça n'a aucun sens d'accuser un art d'être immoral parce que ça produit beaucoup de produits. On va pas.
Oui, mais si ça pollue la planète, Picasso ne pollue pas la planète.
Mais il faut, là, on rentre dans un autre sujet qui est la question de, tout d'abord, on parle surtout en ces moments de la haute couture. La haute couture ne pollue pas la planète. Ce qui pollue la planète, ce sont des marques comme Chine ou certaines marques de fast fashion. C'est autre chose. Il faut quand même, comme il y a embrassé la complexité, on ne peut pas s'en prendre à ce qu'on appelle la fast fashion en général, parce que la fast fashion a eu aussi un rôle politique incroyable. Grâce à ce producteur de fringues à un prix modéré, on a permis à des vastes couches de la population de dire à travers ses vêtements quelque chose de différent de son propre, de sa propre classe, en fait. Et ça, c'est comment dire, une condition de possibilité de la démocratie. On ne peut pas obliger que des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens soient obligés à avouer publiquement le manque des moyens. Grâce à la fast fashion, on peut dire de soi tout et n'importe quoi qui n'est pas juste son identité économique. Donc il faut trouver un compromis là-dedans.
Hubert Barrère, la haute couture ne pollue pas la planète. Est-ce qu'on ne peut pas aussi apporter des bémols à ça ? Je pense par exemple à des défilés. Un défilé de mode, ça bouffe de l'énergie, surtout quand il est forcément à l'autre bout du monde pour quelqu'un.
Oui, mais alors à ce moment-là, on ne fait plus rien dans la vie non plus. Hein. Franchement, on pourrait faire ça à la Garenne Beson. Moi, je suis sûr que ce serait passionnant. On essaie d'être vertueux. Et honnêtement, ce n'est pas un vain mot. Nous avons des chartes absolument très très strict pour faire le plus attention possible. Parce que comme nous sommes en haut quelque part de la pyramide du rêve, de la désirabilité de la mode, on se doit d'être un exemple. Alors, bien sûr qu'il doit y avoir des ratés, mais on fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Et entre la consommation, enfin les acheteurs de la couture ou du grand luxe qui correspondent à quoi? Allez, 5% de la planète et encore. Et la fast fashion dont on vient de parler, qui doit habiller tout le monde, on n'est pas tout à fait dans les mêmes volumes. Ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas s'habiller. En revanche, il y a un côté pervers, je trouve, dans la désirabilité de la mode, parce que la mode est désirabilité. On vous fait avoir envie de choses qui ne sont absolument pas essentielles, au fond. Même si, comme vous, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, on s'affirme, enfin, on devient quelqu'un parce qu'on a mis quelque chose. Bref, est-il nécessaire d'avoir 10 pantalons, 20 chemisiers, 20 chemises, je sais pas quoi. Alors, il y a peut-être une décélération globale de la consommation. Là, les patrons de mode vont me taper dessus, parce qu'ils vont dire on gagne tellement d'argent que c'est génial. Mais voilà, il y a peut-être ça. Prendre conscience que le trop est dans un... c'est un désintérêt pour la communauté.
Elliot Cox, on l'entendait au début de l'émission, je vous rappelle qu'il est designer. Il est au micro de Lilian Alaume.
Oui, il y a une part de moi qui a une forme de culpabilité, parce que j'ai pas le sentiment de faire partie de la solution, mais du problème, parce que c'est une industrie qui génère énormément de... enfin, qui produit énormément en comparaison avec ce dont on a besoin. Après, c'est aussi ce qui me fait dire que c'est aussi un endroit qui peut être extrêmement intéressant, extrêmement inspirant, et aussi un business extrêmement important à développer et à changer. C'est parce que je me dis, ok, bon, bah, peut-être que je vais essayer du mieux que je peux de trouver d'autres systèmes, faire les choses différemment, essayer de faire en sorte que justement faire des vêtements ce soit plus, ne génère plus de la culpabilité, que je puisse être fier même de me dire, ok, bah, le système que j'ai mis en place ou le système dans lequel je travaille, les gens avec lesquels je travaille, les savoir-faire avec lesquels je travaille, ils méritent d'exister, ils méritent d'être accessibles aussi à tous. Je pense que c'est ça un peu, enfin c'est comme ça que je vois mon enjeu dans mon métier aujourd'hui. C'est plus de me dire il y a un nouveau système à trouver qui est bon pour et les acteurs et le public qu'on va appeler consommateurs, mais le public, les gens qui ont envie de se reconnaître et de réinterpréter les vêtements qu'on va leur proposer. Il y a une forme de culpabilité, mais elle est bizarrement intéressante, quoi. Elle est la naissance de quelque chose d'autre, je pense.
Rôle exemplaire de la mode et ce côté défricheur un peu du designer, du créateur. Quel est le rôle des souvenirs pour les créateurs dans leur création, Emmanuel Koch? L'enfance, on a l'impression que chacun puise là-dedans quelque chose.
Oui et non. Je pense qu'il y a des créateurs qui ont un attachement très fort au passé personnel, mais il y a aussi des créateurs qui vivent, comme Hubert venait de le dire, au fond dans un territoire qui n'appartient ni au passé ni au futur, qui est le territoire du rêve. Ce que la mode fait, c'est transformer cette matière incandescente qui est le rêve qui nous traverse chaque nuit et qui nous fait vivre des expériences inouïes, absolument presque impossibles. C'est comme si on avait trouvé un art, qui est l'art de la mode, qui transformait ce rêve, ses couleurs, ses formes, dans quelque chose dont on peut faire l'expérience pendant les jours.
Mais le sac à main, par exemple, d'une mère, d'une maman, ça peut être le support d'un rêve qu'on réalise autrement une fois qu'on est dans la création.
Ce n'est pas les passés en tant que
tels.
Oui, mais ce n'est pas les passés en tant que tels. C'est les passés parce que le déviant, il a été touché par la matière du rêve. Je ne crois pas à la valeur du passé en tant que tel. C'est les passés déviants intéressants seulement quand il a perdu son caractère de passé. D'ailleurs, la mode a cet étrange par rapport à n'importe quel art. Si vous y pensez, on ne peut pas commencer à peindre comme on faisait dans les années 40. On ne peut pas faire des bâtiments comme on faisait dans les années 20. La mode arrive à s'inspirer du passé. On peut, comme Hubert l'a dit, Mathieu Blasi a fait une collection qui rappelle beaucoup les années 20 de Coco Chanel. Mais il peut le faire seulement parce qu'il libère du passé, de son caractère passé. Tout d'un coup, ça devient juste un rêve. Ce n'est plus daté, en fait.
Hubert Barrère, est-ce que vous avez gardé, vous, les dessins que vous faisiez enfant? Je crois que vous dessiniez des escarpins à talons aiguilles, des robes. Non, mais vous en avez gardé, parce que ça peut être intéressant.
Oui. Ma mère les a gardés dans les cahiers Claire Fontaine. À l'école, effectivement, dans les marges, il y avait des talons aiguilles et des robes. Je ne sais pas pourquoi, c'était un cadeau de la vie, parce que je suis dans une famille qui est à 3 années-lumière des préoccupations de la mode. Je suis né à Nantes, franchement, on parlait pas de mode à la maison. Mais voilà, c'est un cadeau de la vie et j'ai la chance de pouvoir maintenant l'exprimer et le vivre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc je suis chanceux.
Avec beaucoup de travail, une formation extrêmement... Oui. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut voir aussi que la mode, c'est une série de métiers, de savoir-faire en quelque sorte, et qui sont en train... qui pourraient éventuellement se perdre.
Ils pourraient se perdre si la mémoire collective ne les oubliait. Et ça, c'est un vrai sujet. Car quand on parlait de la mode tout à l'heure sur est-ce qu'on est passiste ou est-ce qu'on est futuriste, je crois qu'il faut penser à l'avenir, toujours, parce que c'est demain qu'on a... Moi, en tous les cas, c'est là que je vais vivre, hein, je crois. Hein. Mais on peut se permettre, quelque part, de mettre de côté le passé quand on le connaît. C'est comme on ne peut pas déconstruire si on n'a pas construit. Et ces métiers qui sont ancestraux pour bon nombre, comme la broderie, vous savez, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ en Chine et en Égypte, les Sumères, tout ça. On va se dire, ça ne peut pas disparaître. Si, ça peut disparaître. Si tout à chacun oublie, n'a pas la connaissance, n'a pas l'émotion que cela évoque. Les métiers d'art, ce n'est pas juste un savoir, c'est une trace d'humanité. C'est un langage universel. C'est quelque chose qui nous rappelle que nous sommes humains dans un monde qui, pour moi, est de moins en moins, de plus en plus, tout au moins, déshumanisé. La technologie vient à notre secours. Je l'espère que c'est à notre secours, en tous les cas. Mais ces métiers de la main, c'est moi qui les fais. Vous voyez, il y avait une publicité autrefois là-dessus, mais c'est pas rien. Vous arrivez le matin, vous commencez à faire quelque chose avec vos mains, vos petites mains que vous trouvez absentes presque dans votre vie parce qu'elles sont au quotidien. Elles ont une importance immense. Il ne faut pas oublier aussi qu'elles ont permis à l'homme de sortir de sa propre animalité quelque part aussi. Lorsqu'il a découvert qu'il y avait des fruits plus hauts ou de je ne sais pas quoi et qu'il s'est mis debout, et bien sûr qu'il y avait l'esprit qui l'a aidé, mais c'est la main qui l'a guidé vers le haut pour voir la perspective et se dire qu'on est bien mieux debout. Donc la main est beaucoup plus signifiante qu'on peut l'imaginer. Encore faut-il ne pas l'oublier et dire aux jeunes générations cette valeur absolument puissante que nous avons et qui ne doit surtout pas mourir.
Hubert Barrère, je rappelle que vous êtes directeur artistique donc de la maison de broderie Le Sage. Combien de mains chez Le Sage et combien d'œuvres d'art en sortent, en fait, parce que c'est magnifique.
Œuvres d'art, pour moi, c'est toujours très prétentieux.
C'est trop, ouais,
nous sommes dans un... Vous savez, même si on est très proche de l'art, parce qu'effectivement, nous sommes... habité par le véhicule artistique. Mais je n'aurais pas, moi, la prétention de dire que c'est de l'art. Peut-être que les autres peuvent le dire, bien évidemment.
Non, mais c'est parce qu'en France, on fait le distinguo, en Italie, entre design, art et artisanat, il n'y a pas vraiment de différence.
Non. Moi, j'insiste et je dis, vous êtes artiste et il faut vraiment se débarrasser de cette distinction parce que ça fait un siècle, au fond, que... Les systèmes des beaux-arts a été étendu, on a inclus l'art de construire des machines à café, l'art de construire des voitures, ce sont des disciplines artistiques. L'art a accepté que la médiation par l'industrie, par exemple, n'était pas un bémol pour pouvoir créer des œuvres d'art. Donc je pense que ce que les sages font, ce que vous faites, Hubert, c'est de l'art. Ce qui n'empêche pas que c'est bien d'avoir cette attitude de modestie personnelle, mais il faut aussi, même politiquement, commencer à vraiment revendiquer que la mode, c'est un art. Un art indispensable, et c'est qu'en tant qu'art, qu'on pourra discuter, par exemple, les détails sur la production, mais on ne peut pas accuser un art d'être inutile.
Non, ce n'est pas inutile.
Comment dire, ou d'être polluante, etc. C'est juste des conditions très, très spécifiques de sa production, de ce système de distribution qui peuvent être changés, mais on ne peut pas renoncer à la mode.
Bah, pour vous rejoindre, Emmanuel, moi, je pense que dans la mode, il y a des artistes. J'en ai connu. Oui. Alexander McQueen, par exemple, pour ne parler que de lui, est un artiste, parce que ce qu'il faisait le dépassait de toute façon totalement. Ce n'était pas juste un véhicule commercial, parce que la mode, c'est pour faire évoluer l'industrie du vêtement. Combien de gens vous disent, oh, bah, c'est pas portable. Mais on s'en fout que ce soit pas portable. Évidemment qu'il y a des gens qui vont le porter, mais surtout ça fait changer l'idée que l'on a du vêtement. Et ça, c'est aussi intéressant. Et donc, du coup, il y a des artistes, effectivement, quand on arrive à des choses qui sont d'une telle préciosité, d'une telle beauté, d'une telle technicité aussi en même temps, etc. Mais ce que je trouve intéressant, dans, en tout cas, dans le métier que je fais, c'est pour ça que humilité, c'est peut-être pas le mot, mais j'ai un peu de recul là-dessus, c'est que moi, tout seul, je ferais rien du tout. J'ai les brodeuses avec moi, qui sont des femmes absolument exceptionnelles. Je me compare souvent à un chef d'orchestre. J'ai la musique dans la tête, mais je suis incapable de la faire. En fin de compte, chaque brodeuse peut faire un solo, parce que ce sont des solistes. Mais tous ensemble, on va faire une symphonie. Et ça, ce côté absolument collégial, de groupe, c'est une force, c'est une puissance. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Aristide Barrault, qui est un ancien rugbyman. Il avait, mais il a toujours été artiste.
Hein. Il est devenu brodeuse ?
Non, il n'est pas devenu brodeuse, il est artiste visuel. Et il avait la même définition sur le groupe, parce que dans son passé de rugbyman, c'est le groupe qui gagne. Et donc nous, si tant est que soit que nous fassions une œuvre, en tous les cas, c'est une œuvre collective.
Le sociologue Pierre Bourdieu.
Quand nous mettons une cravate à poids, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une de chevaux, nous nous identifions plus profondément à nos goûts, au fond, qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. Je me suis amusé un peu à décrire les goûts de ce que j'appelle la petite bourgeoisie nouvelle. Disons, culture libérée, libre, un peu avant-garde, etc. Bon. Alors je suis tombé sur un magazine qui s'appelle Catalogue des ressources. Alors, c'est un truc en trois volumes, fort cher, destiné aux jeunes gens qui veulent faire du ski de randonnée, de la roulotte, du ski hors piste, enfin tout ce qui est en marge, tout ce qui est nouveau, le style vert, randonnée verte, etc. Bon. Toutes les choses qui sont mentionnées là-dedans vont très très bien ensemble. C'est-à-dire que le fait de préférer telle ou telle cuisine n'était pas sans rapport avec le fait de préférer telle ou telle musique. Goûts bourgeois anciens qui sont du côté du sobre, du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'épate, de l'étalage, etc. Bon. Alors là, on retrouvera tout un ensemble aussi de choses parfaitement cohérentes entre elles et tout à fait exclusives des préférences tout à fait voisines dans ces jeux où chacun se définit par rapport à celui qui est juste au-dessous. Bon. Il y a des renversements constants. Bon. Et par exemple, le fait de revenir aux blue jeans ou de revenir à des choses apparemment populaires change complètement de sens quand le oui est une non-nié, quand c'est une double négation. La deux chevaux de l'intellectuel n'a rien à voir avec la deux chevaux de l'ouvrier agricole. Je dis que les gens sont infiniment moins libres qu'ils ne croient.
Nous nous aventurons, me semble-t-il, à voir vos têtes, enfin la vôtre en tout cas, Emmanuel Ecoccia, sur une pente glissante. Qu'avez-vous à dire après avoir entendu Pierre Bourdieu ?
Je pense
pas cette tête, hein, j'ai rien fait de mal.
Non, je pense que Bourdieu, malheureusement, a joué un rôle assez néfaste pour la culture française parce qu'il a vendu comme sociologie en fait une analyse très cynique et pas charitable du tout des efforts de gens des différentes provenances, mais de trouver par la médiation du sensible, du vêtement, de leur objet dont qu'on met à la maison, de trouver, de deviner son propre goût. En fait, c'est faux et c'est malhonnête de penser que le goût soit une expression immédiate de sa propre condition sociale. C'est l'expression d'une recherche qui implique beaucoup de fatigue, beaucoup d'études, beaucoup de temps, beaucoup de même des erreurs. Mais on peut pas transformer des actions personnelles en espèce de carte d'identité qui condamne l'individu à une place sociale prédéterminée pour toujours. Et je pense que là, cette manque de sensibilité, cette manque de charité, d'humanité, l'a rendu aveugle à la valeur de la consommation en général. Et lui a permis d'écrire un livre qui a malheureusement influencé énormément les élites politiques et culturelles de ce pays et qui l'a rendu en fait très obsolète, le pays en fait, malheureusement.
S'il était encore vivant, je dirais qu'il est rhabillé pour l'hiver. Hubert Barrère, un mot à ajouter ?
Non, tout a été dit.
Très bien, vous écoutez L'Heure Philo et vous êtes bien sur France Inter. Bertrand Belin.
Je taille des costards, je donne des noms d'oiseaux. Sous l'empire de l'état vivant, moi-même sur le dos. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurais soif d'amour, mais ce soir, ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé des rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience, butiner les fleurs du mal, avaler des sabres, des couleuvres. J'ai eu des périodes, mais c'est la dernière chance des dieux. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour, mais ce soir, ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience. C'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience.
Écoutez, quand même, ces jupes-là, elles sont quand même très viriles déjà, non, vous croyez pas?
Non, ce que je crois, c'est que surtout, c'est symbolique. C'est-à-dire que je l'ai fait comme ça, pas par hasard. D'une part, des jupes pour hommes, il y en a eu plein auparavant. Bon, historiquement et tout, même en Angleterre et tout, enfin, les kilts et tout, on connaît. Mais ce que je crois, c'est parce que ça correspondait à un moment. J'ai pas fait ça d'une façon gratuite pour qu'on parle de moi. Je crois que toutes les choses que je fais, c'est toujours en rapport avec ce qui se passe, enfin, d'une façon sociale. Bah, qu'est-ce qui se passait? C'est que je crois qu'il y avait des garçons qui avaient changé un petit peu d'attitude. C'est tout. C'est-à-dire que peut-être que l'image du garçon, enfin, ou de l'homme en costume, trois pièces, qui est très jolie d'ailleurs, en fait, eh bien, il avait un petit peu changé, un petit peu évolué. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, plein de garçons qui voulaient aussi séduire par leur physique, oui, pas seulement par leur compte en banque ou par, je sais pas, leur maturité, leur responsabilité, aussi par la séduction, une séduction physique et vestimentaire. En fin de compte, c'est bien. Je crois que dans le vêtement, il y a pas vraiment un sexe. En fin de compte, le sexe s'exprime pas de cette façon-là. Ce que je crois aussi, c'est qu'il y a en même temps, bien sûr, des gens qui ont leur sexualité qui est très exprimée, c'est-à-dire des femmes hyper féminines, avec des redondances dans les hanches et la poitrine, des garçons qui sont très masculins, dans l'archétype physique masculin, et puis d'autres qui sont aussi un petit peu androgynes, entre guillemets.
Enfin, c'est ceux-là qui mettent les jupes?
Pas du tout. Si, un peu, mais pas automatiquement.
C'était le styliste et grand couturier Jean-Paul Gaultier. Est-ce que un génie de ce genre-là, parce qu'on peut quand même parler de génie, enfin, moi j'ai envie de prononcer le mot, peut faire bouger les lignes, sur la jupe par exemple? Après on va parler du corset avec vous, Hubert Barret, mais Emmanuel Ecoccia, sur le fait que, après tout, les Écossais, ça fait belle lurette qu'ils portent des kilts, non?
Absolument. Jean-Paul Gaultier fait partie de couturiers, de designers qui ont vraiment changé complètement la perception et de la limite entre masculin et féminin. Mais on a parlé de Chanel. Chanel a été la première à pratiquer les cross-dressing, en fait, de mettre des vêtements masculins sur un corps féminin et à l'inverse.
Et Saint-Laurent après avec le fameux smoking.
Saint-Laurent avec les smoking. Alessandro Michele a fait la même chose très récemment. Donc, la mode travaille toujours à la marge de la norme pour changer de petite virgule ou pour ajouter un commentaire qui change complètement l'essence de ce que la norme peut permettre de faire.
Hubert Barrère, vous êtes-vous un adepte du corset dont vous avez revisité, on va dire, à de multiples reprises? Vous avez créé celui du mariage de Madonna, c'est ça?
Oui.
Avec Stella McCartney.
Oui, avec Stella McCartney qui a fait la robe.
Et ensuite avec Alexander McQueen, John Galliano, vous en avez fait plein. Donc c'est quoi là? C'est une forme de jeu, de détournement, de dissident? C'est quoi? Comment est-ce qu'il faut l'entendre?
Non, ça a été pour moi en tous les cas une réflexion entre passion et on va dire nécessité quelque part. Je voulais faire quelque chose de personnel autour du corps féminin qui m'a toujours fasciné, qui me fascine toujours d'ailleurs, la beauté féminine. Et je m'aperçois en étudiant l'histoire du costume qu'il y a un abrégé de féminité quelque part entre la poitrine, la taille, les hanches qui fait les courbes des femmes. Je ne vous apprends rien. Mais que le corset est soit un instrument de torture, soit un instrument de protection de féminité, soit un instrument contraire pour offrir le féminin. Tout dépend de la période. Et moi, je me suis intéressé à donner une liberté. Ça paraît antinomique, mais non. Une femme du XXe siècle n'est pas une femme du XVIIIe siècle qui est obligée de porter un corset. Si elle le porte, c'est qu'elle le veut. C'est qu'elle s'assume. C'est une femme forte. Parce que quand si vous essayez un corset, vous n'avez pas besoin de serrer comme des malades pour être malade avec ça. Vous allez vous apercevoir que d'abord vous tenez droit comme une danseuse, vous avez un autre port, c'est le moment de le dire, on vous regarde davantage, donc vous êtes en danger quelque part, vous vous mettez en danger, mais parce que vous avez décidé d'être en danger. Et donc vous avez une puissance, une force en vous. Donc je trouve que le corset du XXe siècle, en tous les cas, lorsqu'il est décidé par les femmes, parce que ça c'est un sujet hyper important, est un allié de leur puissance et de leur féminité.
Emmanuel Lecoq.
Non, je voulais dire juste que ce que Hubert vient de dire nous démontre à quelle la puissance de la mode est transfigurée un objet du passé. En fait, les corsets étaient dans les passés au XIXe siècle un objet de torture et tout d'un coup, dans les mains de personnes comme Hubert et d'autres couturiers, deviennent l'expression sublime et suprême d'une liberté différente, d'une volonté, une capacité de se façonner et se sceller différemment. Donc, c'est cette puissance-là qui est irrénonçable, encore une fois. On ne peut pas renoncer à la mode parce que c'est cet art étrange qui nous permet de transformer même la valeur de l'histoire passée et de lui donner une vérité, une liberté différente.
Tout à fait. Et Emmanuel, tout à l'heure, vous disiez la morale aussi. Mais un corset, c'est un tuteur physique autant que moral. Alors, bien sûr, attention, il y a les corsets érotiques, ça c'est un autre sujet qui existe. Mais lorsque vous portez un corset, au quotidien, on va dire, dans la journée, il y a une rigueur qui vous est imposée, que vous imposez au fond, et qui fait que vous êtes différent.
Tous au corset, et on va en faire porter aux hommes. Pourquoi il y a
des femmes
qui portent des corsets?
L'origine des corsets, ce sont les hommes. C'était des vêtements, d'ailleurs, plutôt de protection et guerriers. Et d'ailleurs, tout à fait récemment, je ne sais pas si encore nos militaires dans leurs vêtements d'apparat ont encore des baleines dans leurs vêtements, mais c'était l'évolution du gilet qui était corset avant, du XVIIIe siècle, même bien avant, parce que le corset pour homme, il commence au XVe, dans les armures, et après les vêtements de cour. Si vous regardez un peu les peintures des italiennes, ils ont des tailles, les gars, des dents, à moins qu'ils soient obèses, c'est encore autre chose. Mais très très fines, parce qu'ils avaient des corsets.
Je vous demanderai pas si vous en portez, Hubert Barrère.
Ça m'est arrivé.
Ça vous est arrivé. Et c'est pas désagréable.
Pas du tout. C'est pour me mettre en valeur. Histoire de quoi?
Histoire de. Alors on a dit beaucoup de choses au cours de cette émission. Il faut bien se dire qu'on ne confond pas mode et haute couture. Hein. Ce sont des choses tout à fait différentes. Quel est l'avenir aujourd'hui de la haute couture?
Moi, de toute façon, la haute couture pour moi va toujours exister parce que est-ce qu'on peut s'abstenir d'avoir du rêve? La haute couture, c'est un rêve. Alors c'est un rêve qu'on n'a pas besoin d'acheter forcément, il y a très peu de gens qui l'achètent, mais il y a beaucoup qui la regardent.
Et ça, c'est un véhicule esthétique, un véhicule de rêve, de désirabilité dont on parlait tout à l'heure. Et encore une fois, je me répète, l'acte d'achat n'est pas celui qui est le plus essentiel dans cette histoire. C'est toute l'image que ça draine et qui va faire qu'on va acheter ou des rouges à lèvres ou des parfums suivant ses moyens et ses envies.
Emmanuel Kocha, nous-mêmes humains, au fond, nous ne sommes qu'une mode de ce monde.
Oui, mais c'est-à-dire nous sommes en mode parce que nous ne pouvons pas cesser de nous métamorphoser. Donc tous les 3 mois, il faut se réinventer. C'est ça. C'est pour cela aussi que la mode est un miroir de notre condition.
Je voudrais signaler, avant de nous quitter, 2 livres de Sophie Kurdjian, que vous connaissez d'ailleurs, je crois, Emmanuel Kocha, Géopolitique de la mode. C'est en poche aux éditions Le Cavalier Bleu. Et il y a aussi Figure de mode, artisan, créateur et ambassadeur des styles. Emmanuel Kocha, vous co-signez donc ce livre avec Alessandro Michele chez Flammarion, La vie des formes, philosophie du réenchantement. Hubert Barrère, on a beaucoup parlé du corset. Vous aviez écrit un livre, publié un livre sur le corset. Il est encore en vente ou on ne le trouve plus ? Que dans les musées, ne me dites pas ça.
Si, je crois qu'il est aux Arts Déco.
Ah ben alors on va aller le voir.
Il s'appelle Le Corset.
Le Corset. En tout cas, Hubert Barrère, Emmanuel Kocha, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de leur philo.
Merci à vous.
Merci à vous.